Vous voyez, vous donnez la différence entre l'état de nature interne et l'état du système. Comprenons bien, c'est la question de la nature et des états. C'est une chose très difficile à bien préciser. On pourrait dire que l'état de nature, c'est comme un faux, une manière d'exister. Tandis que la nature, prise en elle-même, c'est uniquement une... Les déterminations, c'est le tiestique. Qu'est-ce que c'est de la nature humaine? La nature humaine implique le point de vue, justement, d'être une phusis avec une âme spirituelle. Tandis que l'état de la nature regarde une manière dont cette nature se trouve réalisée. Donc c'est déjà un aspect beaucoup plus concret. C'est la nature face à sa capacité de trouver sa fin. C'est la nature qui va découvrir son point de vue de son propre bonheur. C'est le point de vue, donc, d'une nature finalisée comme telle. Alors, l'état de nature interne, c'est la nature prise en elle-même, je dis bien la nature prise en elle-même, sans aucun poids de déchéance, si vous voulez. Au fond, la nature interne n'a jamais existé. Donc, c'est une vue de l'esprit. Donc, en réalité, au fond, l'état de nature interne, je dirais état, c'est un peu trop. On devrait dire la nature interne, tout simplement. La nature prise en elle-même. N'est-ce pas ? Et non pas l'état, au sens rigoureux. Tandis que l'état de justice originelle, ça a existé. Il est toujours qu'il faut... Je crois que normalement le status naturel, ça implique toujours le point de vue d'une nature qui a existé dans telle manière. Nous existons, nous, dans un état de corruption, puisque nous sommes nés dans l'état de péché originel. Il y a peut-être, c'est déjà l'état de corruption, c'est pas de la mort, c'est pas. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie du tout de retrouver le péché originel, parce que c'est pas très drôle de dire que. On est dans un état de corruption. Et nous sommes nés dans cet état de corruption. C'est un état particulier. Bon, la grâce chrétienne nous met dans un état de justice chrétienne, qui n'est pas le retour au paradis terrestre. Et entre deux, nous découvrons ce que c'est que la nature interne. Oui. Alors, on peut parler d'un état de nature interne, c'est-à-dire tout simplement la nature qui serait parfaitement elle-même, sans voir le point de vue de la grâce, sans voir le point de vue de la corruption. Oui. Est-ce que vous avez suffisamment de ça? On verra progressivement si ce n'est pas suffisamment clair. Deuxièmement, vous nous avez dit qu'Adam avait besoin d'un commandement d'aimer son prochain et Dieu, même avant la faute. Je dis ça en fonction de ce que dit saint Jean. C'est le commandement le plus ancien. Je ne vois pas ce que c'est que ce commandement le plus ancien si je ne le vois pas jusque-là. C'est ça, c'est une hypothèse de recherche. Or, dans cet état de nature intègre, c'est pas de nature intègre, c'est l'état de justice originelle. La raison supérieure d'Adam était parfaitement soumise à Dieu dans la charité. Et par voie de conséquence, son corps et ses puissances étaient soumises à Allah, tout à fait. Pourquoi fallait-il alors le commandement du prochain? Il fallait le commandement du prochain parce que le commandement du prochain est quand même un dépassement par rapport à ce que représente la justice. Le respect à l'égard de l'autre, il n'y a pas besoin. Mais aimer le prochain d'un amour semblable à celui de Dieu, ça, il faut un commandement. Ce n'était pas inscrit dans la justice originelle. C'était inscrit fondamentalement, mais ça avait besoin d'être dit. Vous voyez? Tandis que la justice, non. Il n'y avait pas de commandement de justice. Il n'y avait pas besoin d'un commandement d'adorer Dieu. Adorer Dieu, il n'y a pas le péché. Mais il n'y avait pas besoin d'un commandement d'adorer Dieu. Parce que la pente naturelle, elle est vers l'adoration. Tandis que la pente naturelle, même dans la justice originelle, impliquait la possibilité d'aimer le prochain, mais ne l'impliquait pas directement. Et c'est pour ça que je dis qu'il y avait un commandement, c'est le seul commandement, je crois, positif. Le seul commandement positif, c'était d'aimer le prochain. Au dernier cours, vous nous avez montré qu'il fallait distinguer la puissance obédientielle qui est dans l'âme, dans le nous et dans la volonté.
Oui,
puissance obédientielle dans les différents niveaux. Comment pourriez-vous faire cette distinction, René? Pourriez-vous préciser quelques mots simplement, parce que ça c'est quelque chose de complexe et difficile. La puissance obédientielle à l'égard de l'âme spirituelle, je dis toujours, la puissance obédientielle fait appel au pouvoir, à la puissance de Dieu, puissance divine. Dieu peut opérer, et on dit puissance obédientielle comme une matière capable d'être transformée. Donc la puissance obédientielle de l'âme spirituelle relative à la puissance de Dieu, c'est au niveau de l'être. C'est que l'âme spirituelle peut être, elle est capable d'être transformée par la grâce. Voilà la puissance obédientielle. L'âme est capable d'être transformée par la grâce. L'âme n'implique pas la grâce. L'âme n'a pas un ordre positif vers la grâce, mais elle n'a pas non plus un ordre négatif. Et c'est pour ça qu'on dit puissance obédientielle. Elle est capable de. Si tu es capable, c'est comme ça qu'on fait pour le bâton. Si tu es capable de recevoir le bâton. Si tu es capable, ça. Puissance obédientielle. Donc c'est dans la liturgie elle-même. La puissance obédientielle, elle est dans la liturgie quand vous dites si tu es capable. Parce que si tu n'es pas capable, donc il n'y a pas de puissance obédientielle, la grâce ne pourra pas s'insérer dedans. La grâce s'insère dans la puissance spirituelle de l'âme, en tant que la puissance obédientielle de l'âme est une béance à l'égard de la grâce. On prend le terme de béance à l'égard de la grâce. C'est une attente radicale à l'égard de la grâce. Puissance obédientielle. Bon. L'âme spirituelle va impliquer le nous, va impliquer la volonté. Les deux facultés spirituelles de l'âme spirituelle, le nous et la volonté. Le nous est en puissance obédientielle vis-à-vis de la foi. La volonté est en puissance obédientielle à l'égard de l'espérance et de la charité. Vous voyez donc que ce n'est plus les mêmes puissances obédientielles. Que celle-ci est au niveau de l'être, donc au niveau entitatif, donc au niveau de l'être. Tandis que le nous, c'est à l'égard de l'opération, ainsi que la volonté, c'est à l'égard de l'opération. Donc c'est plus tout à fait la même chose. Le nous est capable d'être transformé par la foi. Il y a dans le nous une capacité à être transformée, surélevée par la foi, surélevée par cette lumière divine, puisque la foi vient de Dieu, c'est une lumière divine qui va s'insérer dans le nous. Le nous est capable de s'élever jusqu'à Dieu. Il est capable de découvrir l'existence de Dieu. Donc il est capable de s'élever jusqu'à Dieu. Il y a un ordre du nous vis-à-vis de l'être de Dieu. Et cet ordre s'explique par le point de vue que le nous est ordonné vers l'être. Primum cadit in intellectus ens. Alors la puissance obédientielle du nous, vous retrouvez l'être, hein, c'est intéressant. Mais vous retrouvez l'être, non pas du tout au point de vue substantiel, comme l'âme spirituelle, vous retrouvez l'être en tant qu'il est capable d'être connu et qu'il me conduit à l'être divin. Et cet être, puisque le nous est ordonné à l'être divin, il est donc capable d'être illuminé directement par Dieu. Donc la puissance obédientielle du nous, c'est d'être capable d'être illuminé directement par Dieu, de recevoir la foi. Alors, vous voyez le métaxus, c'est toujours intéressant de voir le métaxus, qu'est-ce qui permet ça? Enfin, l'âme spirituelle, c'est bien l'être est capable d'être transformé par la grâce. Mais un être spirituel, c'est sûr. Ici, c'est encore l'être de le nous en tant qu'il est capable d'atteindre l'être, l'être divin. L'espérance. Viens regarder l'appétit. Il y a un appétit naturel vers le bonheur. Nous avons un appétit naturel vers le bonheur. cet appétit naturel vers le bonheur peut être en puissance obédientielle vis-à-vis de l'espérance et vis-à-vis de la charité. Alors vous comprenez que la puissance obédientielle de l'appétit naturel vis-à-vis du bonheur est différent que l'appétit naturel de nous et de l'âme spirituelle. Pourquoi ? Parce que l'appétit naturel dit quelque chose de positif, tandis que le nous et l'âme ne disent pas quelque chose de positif. C'est ça qui est très curieux. Oui. Autrement dit, quand il s'agit de l'âme spirituelle et de la nous, j'allais dire, là, la distinction est entre le point de vue de la substance et de l'opération, mais elle est analogue. Elle est analogue, elle est même semblable, puisque des deux côtés, c'est une capacité sans rien de positif. Tandis qu'ici, du côté de la volonté, il y a quelque chose de positif. J'ai un appétit naturel de bonheur. Et cet appétit naturel de bonheur n'est pas purement une capacité. Ce n'est pas une simple capacité d'aimer. C'est plus, c'est un appétit naturel. Un appétit naturel dit quelque chose de positif. Et c'est sur ce quelque chose de positif que se greffe l'espérance et la charité. Alors je crois que tous les équivoques, on disait ça à propos du père de Lubac, hein, tous les équivoques viennent de là. Si vous vous mettez dans une perspective spirituelle, vous mettez dans la perspective de la volonté. Si vous vous mettez dans une perspective de théologie scientifique, vous mettez dans la perspective du nous, c'est l'âme spirituelle. Et alors là, il y a équivoque. Et ça, le père Gallévé n'a pas saisi ça du tout. Alors je crois qu'il faudrait saisir. Parce que le père de Lubac se mettait nettement dans une perspective spirituelle. Oui. Donc, dans une perspective spirituelle, il y a quelque chose de positif. Le problème de la puissance obédientielle n'est pas le même en théologie mystique et en théologie scientifique, autrement dit. En théologie mystique, c'est le problème d'un amour qui implique un appétit naturel vers le surnaturel. De l'autre côté, c'est une capacité radicale de réceptivité. Oui. Capacité radicale de réceptivité dit béance. Appétit naturel vis-à-vis du bonheur et vis-à-vis d'un bonheur qui peut être surnaturel dit plus qu'une réceptivité. C'est quelque chose de plus. C'est très difficile à préciser. Mais on le sent bien qu'il y a quelque chose de plus. C'est pas le même. L'ordre n'est pas le même. Et au fond, ça n'a jamais été précisé. Alors, ce qui fait comprendre, et ça c'est les équivoques constants, vous voyez, je vois très bien, je connais Père Gagnobé, je vois très bien l'homme qui croit qu'au fond, qu'il n'y a qu'une seule théologie, la théologie scientifique de Saint-Denis. La spiritualité, au sens spiritualité, très bien. Mais c'est la théologie scientifique de Saint-Denis, bien que ça. Vous voyez, ça c'est une mise dure. Les thèmes durs, à ce moment-là, qui sont comme ça, qui sont sur leur char d'assaut avec Saint-Thomas, avec la somme théologique, et qui croient que la somme théologique va juger de l'aspect spirituel. Non. Saint-Thomas n'aurait pas fait ça. Oui. Parce que la théologie n'est pas que la théologie scientifique. La théologie scientifique est ordonnée une théologie mystique. Et dans une théologie mystique, on est au niveau de l'amour. Et au niveau de l'amour, le point de vue, vous voyez, le point de vue du passage du naturel au surnaturel est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil de voir le passage de naturel au surnaturel pour l'amour. Vous voyez, ce que dit Aristote, ce que prend Aristote, ce que saint Thomas dit, les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance. Les degrés de vie ne se prennent pas du côté de la vie. Vous ne pouvez pas saisir les degrés de vie, on a un grand philosophie du vivant, ça. Et c'est très important à saisir ça. Les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance et pas du côté de l'appétit. Du côté de l'appétit, le sujet lui-même est entièrement pris. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de voir la distinction entre l'ordre surnaturel et l'ordre naturel du côté de la volonté que du côté de l'intelligence. Oui, ça, il faut s'en saisir ça. Et ça, c'est important à saisir pour moi. Au moins, saisissez qu'il y a un problème. Pour ne pas aller trop vite avec des gros sabots. Il peut y avoir des gros sabots du théologien scientifique par rapport au théologien spirituel. Et en France, c'était l'impression qu'on avait. Si vous avez le temps, c'est une chose facile à voir. Il suffit de lire le livre sur le surnaturel du père de Lubac et lire la critique du père Gagnobé. Alors, on voit très bien un dialogue dessous. L'un essaie de saisir le point de vue spirituel, l'autre vient par derrière et ça va sortir. Et là, c'est ça qui... C'est pas bien, ça, parce qu'on doit toujours regarder l'intention de quelqu'un. Est-ce que cette personne prend... Est-ce que ce théologien se place du côté théologie spirituelle ou du côté théologie scientifique? C'est vrai, c'est pas la même chose, c'est pas le même. Le même rapport n'est pas le même. Vous voyez, le rapport entre les deux n'est pas le même. Ça, il suffit de comprendre ça. Une fois que vous avez ce dit, vous voyez que la puissance obédientielle se prend de deux manières. Ordinairement, quand on parle de la puissance obédientielle, c'est à ce niveau-là. Ordinairement. Mais on peut parler du passage du naturel au surnaturel, au niveau du nous et au niveau de la volonté, bien évidemment. Et alors, rappelez-vous ce fait très important, les degrés de vie se prennent du côté de la volonté. Et les degrés de vie ne peuvent pas se prendre du côté affectif. Du côté affectif, on peut prendre. Parce que du côté affectif, il y a toujours l'unité. C'est le sujet qui aime. Tout simplement prendre. La volonté, c'est la faculté du sujet. Tandis que l'intelligence, c'est pas la faculté du sujet. Alors l'intelligence peut pousser plus loin du côté abstraction, manière d'être, mais elle ne saisit pas tout le sujet. C'est ça qu'on peut avoir un regard plus gros que sur l'estomac. Ça arrive. Parce que le regard est du côté de la connaissance et l'estomac est du côté du sujet. Tout de suite la différence qui existe entre les deux. Il y en a au contraire qui sont myopes, alors qu'il y a un tout petit, ils ont mangé, ils ont encore faim. Mais il y a une raison, il n'y a pas l'harmonie entre les deux. Je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple tangible qui est très intéressant à voir. La connaissance est de l'ordre des degrés de vie, tandis que l'appétit est du côté de l'unité du sujet. Alors, transposer ça du côté surnaturel, ça ne le fait pas. Hein. Il aurait pu le faire. Ça aurait évité à certains thomistes d'être un peu bloqués. N'est-ce pas ? Les thomistes d'Ultre. Alors, voyons, je relis le chat à la question 2, puis nous allons avancer pour faire plus de. Vous voyez bien la question. Hein. Sans la grâce, l'homme peut-il vouloir et faire le bien ? Alors, je relis parce que c'est une très belle. Une petite synthèse que nous donne cette médecine. C'est une très belle synthèse, cette première question de l'âme. La nature humaine peut être considérée en deux états différents. Donc, la traduction n'est pas tout à fait bonne. Hein. Je crois qu'il faut être très sensible à ça. Hein. La traduction n'est pas tout à fait bonne. Il faudrait dire la nature humaine peut être considérée de deux façons. Quand vous dites deux états, vous précisez état et à partir de là, vous savez très bien ce que vous dites. Saint Thomas dit tout simplement Natura un hominis, duplicitaire potest considérable. Mais traduisons tel que Saint Thomas le dit, c'est pas la peine de penser si Saint Thomas dit duplicitaire, il ne peut pas dire d'où ça touche. Pas la même chose. Considérer de deux manières et deux états, c'est pas la même chose. Sentez bien la différence. Duplicitaire, ça veut dire deux raisons formelles. Donc c'est distingué. Deux status, c'est deux distinctions, séparations, au point de vue existentiel. D'un côté, c'est une raison formelle, et de l'autre côté, c'est un jugement existentiel. Alors vous passez de la raison formelle au jugement existentiel. Alors, vous faussez la perspective. Ou bien, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, état d'intégrité, la scolastique l'a dit, Jacques Saint-Thomas, a dit état d'intégrité, c'est pas juste. Et quand vous regardez l'état de Saint-Thomas, comme Saint-Thomas le dit, c'est pas tout à fait juste. Uno modo utsui integritate. Sicutfui primo parente ante peccatum. Donc dans son intégrité. Alors vous voyez, Saint-Thomas dit dans son intégrité. Ici, il ne dit pas un état d'intégrité. Il dit dans son intégrité. La nature humaine était dans son intégrité, dans l'état de justice en lui-même. Vous voyez la différence. Dans l'état de justice originelle, elle était dans son intégrité. Donc, ou bien dans son intégrité telle qu'elle fut à notre premier père avant le péché, ou bien dans l'état de corruption, alors, c'est que nous, qu'est-ce corrupteur, ça ne va pas dire, donc c'est l'état de corruption dans lequel elle fut après le péché du premier parent. Vous saisissez bien ça, c'est important à saisir. Hein. La question du status implique un jugement d'existence, le regard d'ubiquitaire n'implique pas nécessairement juridique. Raison formelle qui n'implique pas toujours une séparation. Le status implique une séparation. Dans les deux cas, elle a besoin pour faire et vouloir le bien, de quelque ordre qu'il soit, du secours divin considéré comme premier moteur. Donc le premier moteur est tout à fait général. Dès que la nature humaine, puisque la nature humaine est créée, elle ne peut pas s'exercer dans l'ordre du bien, c'est-à-dire dans l'ordre de la finalité, sans un secours général. Considéré comme premier moteur. C'est tout à fait général, le premier moteur. C'est intéressant que saint Thomas garde encore le premier moteur, vous voyez. Alors évidemment, ce qui serait intéressant, au point de vue historique, c'est de voir quand saint Thomas emploie ici le premier moteur, est-ce que c'est la même signification que le premier moteur dans la physique? C'est pas tout à fait la même chose. Je vous dis ça parce qu'il faut éviter les équivoques. Quand Aristote parle du premier moteur, Aristote, vous regardez ça, le premier moteur ici. Alors l'expression demeure, et la signification est différente. C'est très curieux, ça. Parce que le premier moteur d'Aristote, on sent très bien, c'est la transcendance du premier moteur. C'est nécessairement, tout est suspendu à ce premier moteur. Alors, saint Thomas, lui, en théologien, garde la même expression, mais le premier moteur, lui, il le prend d'une façon beaucoup plus positive. C'est que Dieu, premier moteur, c'est celui qui a son influx sur toutes les activités. Le premier moteur est présent à l'égard de l'exercice de toutes les réalités. Il y a quelque chose de commun, il ne faut pas dire que c'est tout à fait différent, mais il y a quelque chose de plus précis. Nous l'avons montré dans l'état d'intégrité. Alors, in status naturae integrae. Alors là, vous trouvez l'état d'intégrité. Hein? Mais vous voyez comme c'est délicat. Il a dit duplicitaire, et puis il dit in status integritatem. Alors, il faut faire attention, il faut faire, je crois, très attention à cette très grande souplesse du langage de saint Thomas et ne pas trop le reprendre d'une façon qu'il soit. Dans l'état d'intégrité, la capacité d'action de l'homme était suffisante pour que, avec ses seules forces naturelles, il pût vouloir et faire le bien proportionné à sa nature. Donc, dans son état d'intégrité, c'est-à-dire dans l'état de justice originelle. Et en façon tout à fait précis, il faudrait dire, dans l'état de justice originelle. In status justitia originalis.
Oui. Est-ce qu'il pouvait faire le bien surnaturel? Est-ce qu'il pouvait
faire
le bien surnaturel?
Sûrement.
Dans l'état de justice originelle.
Dans l'état de justice originelle, c'est un tas de grâce. C'est une façon différente.
C'est pas un état de justice
originelle. Et c'est ça l'équivoque, vous voyez. Et ça, il y a un petit équivoque, même là, dans l'anglais tout simplement. Vous voyez? Je crois qu'on doit faire attention là-dessus. Parce que in status integritate risquerait de nous faire croire que c'est la nature humaine prise en elle-même. Alors que pas du tout. C'est en réalité le point de vue de la justice originelle. Le point de vue de la justice originelle. Vous voyez ? Donc, continuons. Faut bien voir. Dans son état d'intégrité, la capacité d'action de l'homme est suffisante pour que, avec ses seules forces naturelles, il puisse vouloir et faire le bien proportionné à sa nature. Là, il parle de tout ce qui est proportionné à la nature, hein, de toutes ses activités bonnes, donc l'amitié et la contemplation naturelle, les deux finalités naturelles. Comme est le bien d'une vertu acquise, mais non un bien sans proportion avec sa nature, et la dépassant comme est le bien d'une vertu infuse. Oui. Évidemment qu'avec la grâce, il devait avoir le secours divin au plus surnaturel. Mais il avait la capacité d'agir pleinement selon l'épanouissement de sa nature. Dans l'état de corruption, l'homme n'est même plus à la hauteur de ce que comporte sa propre nature. En dessous du niveau de la mer. C'est ça qu'il faut comprendre, l'état de corruption. À tel point qu'il ne peut plus, par ses seules forces naturelles, accomplir dans toute son étendue le bien proportionnel à sa nature. Il ne peut plus, par lui-même, accomplir parfaitement tout ce qui est le développement de sa nature. sans un secours particulier de grâce. Cependant, le péché n'a pas totalement corrompu la nature humaine, mais bien l'équilibre entre les deux. Et ça demande d'atteindre l'état d'intégrité pour que nous comprenions mieux ce que représente cet état de corruption. Dans cet état de corruption, l'épanouissement de la nature ne peut plus se faire normalement sans la grâce. Cependant, le péché n'a pas totalement corrompu la nature humaine jusqu'à la priver de tout le bien qui lui était naturel. Parce que ça, ce serait la position de Luther. Et cependant, c'est par rapport à Luther. Saint Thomas prophète. Alors, il a compris qu'on dirait ça. Et qu'on pourrait dire ça en fonction de saint Augustin. Il ne faut pas l'oublier, saint Thomas connaît saint Augustin. Et il sait bien qu'une certaine formule de saint Augustin pourrait faire tendre à ça. C'est pourquoi, même dans cet état de dégradation, l'homme peut encore faire par sa puissance naturelle quelques biens particuliers. Ces biens particuliers ne sont pas énormes, mais quand même, hein, comme de bâtir des maisons, planter des vignes et autres travaux du même genre, le facere. C'est très curieux, c'est les exemples du Fatshire. Je crois qu'on pourrait dire l'exemple du Fatshire, l'exemple d'une certaine manière de fonder un foyer. Hein, morale domestique, morale familiale, d'une certaine manière. Mais il n'est pas capable de réaliser dans sa totalité le bien qui est de son domaine naturel sans connaître quelques défaillances. Il ressemble à un infime qui peut encore exécuter tout seul quelques mouvements, mais non pas se mouvoir parfaitement comme un homme en bonne santé. Donc il a besoin d'une petite brouette pour pouvoir se mouvoir comme un infime, il a besoin d'un tuteur pour pouvoir bien agir. Tant qu'il n'a pas obtenu sa guérison par le secours de la médecine. En résumé, ah oui, les analogies sont intéressantes parce qu'on fait appel à l'art. Hein. La médecine, c'est un art pour saint Thomas. C'est pas une science pour saint Thomas. Pour les anciens, la médecine est un art. Donc on fait appel à des exemples d'ordre artistique pour bien comprendre la défaillance partielle, parce que la défaillance est partielle. Donc on fait appel à des exemples de point de vue du facere. C'est très net. Hein. Les analogies sont d'ordre du facere pour montrer l'état de corruption. En résumé, saint Thomas reprend, sic igitur virtute, dans l'état d'intégrité, l'homme avait besoin d'une force ajoutée gratuitement à celle de sa nature uniquement pour accomplir le vouloir le bien surnaturel. Dans cet état d'intégrité, il y a la grâce donnée qui vient de surélever la nature. Donc c'est l'état de justice originelle. Dans l'état de corruption, il a besoin d'un double titre, d'abord pour être remis en état, et ensuite pour accomplir le bien de l'ordre surnaturel, c'est-à-dire vérité. Enfin, dans les deux cas, il faut toujours un secours divin qui donne la notion de bien. Donc vous voyez bien les distinctions que fait saint Thomas. C'est des distinctions très importantes, difficiles à bien saisir, mais qui sont très importantes. Premièrement, le secours général du premier moteur. Deuxièmement, on regarde les deux cas particuliers. Dans l'état d'intégrité, dans l'état de justice originelle, il y a une intégrité. Et cette intégrité permet le développement parfait de la nature selon ses finalités propres. Mais évidemment, besoin de la grâce pour le bien surnaturel. Dans l'état de corruption, au contraire, parce qu'il est dans un état d'infériorité, il a besoin de la grâce comme remède. La grâce sanance, la grâce qui est un remède, qui est l'huile pour l'infirme. Alors il a besoin de cette grâce sanance pour que, de fait, cet état de corruption lui permette de pouvoir faire ce qui est comme naturel à sa nature. Donc, l'amitié, la contemplation. Il a besoin de ça. Et la vision des vertus. Il a besoin de la grâce. Il ne faut pas par lui-même faire ça. À cause de cet état d'infirmité. Et puis, évidemment, il a besoin de la grâce pour la vision naturelle. crois que ça, vous le voyez bien. Ça, je voulais le redire parce que c'est complexe. Alors, voyons tout de suite maintenant la réponse aux premières objections. L'homme, nous l'avons montré, est maître de ses actes et surtout de son vouloir. Pourquoi dès lors, sans la grâce, ne pouvait-il pas vouloir et faire le bien? C'est une objection très très nette. Hein. Il est dans l'état constitutif de la nature humaine d'avoir ce pouvoir sur ses actes, d'avoir ce dominium. Vous voyez combien saint Thomas insiste là-dessus. Il a cette possibilité de vouloir le bien et de faire le bien. Ça fait partie de son dominus, de sa seigneurité. Il est seigneur de ses actes. Bon, et donc, ça fait partie de sa nature. Il est capable de cela. Alors, 112. L'homme est maître de ses actes. Homo est dominus suorum actum. Il est maître de ses actes. Et en particulier de vouloir ou de ne pas vouloir. Toutefois, cette liberté, il ne la possède que parce que sa raison délibérée peut prendre telle ou telle partie. Ça, c'est tout à fait le séminaire. Hein. La raison délibérée. Donc, c'est propre de saint Thomas de bien préciser là ce que représente le choix. Cette quoi deliberat vel non deliberet, si huius etiam sic dominus. Alors voyons tout de suite maintenant la réponse aux premières objections. L'homme, nous l'avons montré, est maître de ses actes et surtout de son vouloir. Pourquoi dès lors, sans la grâce, ne pouvait-il pas vouloir et faire le bien? C'est une objection très très nette. Hein. Il est dans l'état constitutif de la nature humaine d'avoir ce pouvoir sur ses actes, d'avoir ce dominium. Vous voyez combien saint Thomas insiste là-dessus. Il a cette possibilité de vouloir le bien et de faire le bien. Ça fait partie de son dominus, de sa seigneurité. Il est seigneur de ses actes. Bon, et donc, ça fait partie de sa nature. Il est capable de cela. Alors, 112. L'homme est maître de ses actes. Homo est dominus suorum actum. Il est maître de ses actes. Et en particulier de vouloir ou de ne pas vouloir. Toutefois, cette liberté, il ne la possède que parce que sa raison délibérée peut prendre telle ou telle partie. Alors ça, c'est tout à fait séminaire. Hein. La raison délibérée. Donc, c'est propre de saint Thomas de bien préciser là ce que représente le choix. Cette quoi délibérate vel non deliberet, si huius etiam sit dominus, reportet quod hoc sit. Per délibérationnel continental. Donc, voyez bien hein, les deux aspects que saint Thomas souligne. C'est toute sa morale qui est ici présente. Hein. Alors, on peut le comprendre qu'en fonction de toute l'analyse qui donne de l'acte humain. Et donc, toute l'analyse de l'acte humain, c'est intéressant de voir que l'analyse de l'acte humain ici est nécessaire pour comprendre la force de la grâce. Alors, sans doute l'homme est maître de ses actes, et en particulier du vouloir ou pas vouloir. Toutefois, cette liberté, il ne la possède que parce que sa raison délibérée peut prendre telle ou telle partie. Mais il est maître aussi d'entreprendre cette délibération ou de s'y refuser. Et cela suppose encore une délibération préalable. Donc, je veux me mettre, m'appliquer à délibérer ou pas délibérer. Et comme on ne peut remonter ainsi à l'infini, il faut à la fin reconnaître que le libre arbitre de l'homme est mu par quelques principes extérieurs, situés au-dessus de l'esprit humain, c'est-à-dire par Dieu. Ça, c'est très intéressant, c'est toujours de l'un processus à l'infinité. Ça, il faut comprendre ça, c'est le grand levier qu'Aristote avait pris, que simplement, non processus à l'infinité. Dans Aristote, le grand lieu, c'est la métaphysique petit libre alpha. C'est là où est donné en premier lieu le non processus infinitum. C'est très intéressant, ceux qui s'intéressent à la philosophie et à la pensée doivent toujours revenir à ça. Le on ne peut pas remonter à l'infini. Le non processus in infinitum. Alors, c'est très curieux, parce que ce non processus, non processus, on ne peut pas remonter à l'infinitum. Non, on ne peut pas remonter à l'infini. Ce non processus in infinitum est une condition sine qua non de la causalité. Donc, c'est rattaché au principe de causalité. Et c'est la condition sine qua non. Si on pouvait remonter à l'infini, il n'y aurait plus de causalité. La causalité implique un ordre. Un ordre de quelque chose qui est antérieur et quelque chose qui est postérieur. Et il y a une dépendance du postérieur à l'égard de l'antérieur. C'est propre de l'ordre de la causalité, ça. Toute causalité implique ça. Or, si on remontait à l'infini, il n'y aurait plus d'ordre. Donc il n'y aurait plus d'antérieur, il n'y aurait plus de postérieur. On serait dans la relativité absolue. Vous voyez, le non-processus in infinitum, ça c'est évidemment c'est un peu de la métaphysique et de la critique. Mais c'est très très important, il faut y réfléchir. Parce que c'est quelque chose de capital, le non-processus in infinitum. On ne peut pas monter. Et ça commence en circonstamment à le vivier. Ce gros instrument de notre portée, et on regarde. Alors, non processus in infinitum, condition sine qua non pour la causalité. Alors, ce qui est très curieux, c'est que le non processus in infinitum, parce que c'est la condition de la causalité, a été découvert avant la finalité, et même quand la finalité est supprimée, on le parle encore. C'est très très curieux au point de vue de l'histoire de la pensée. Oui, ça c'est une des choses qui est intéressante à regarder historiquement. N'est-ce pas, du point de vue critique. C'est très intéressant de voir toujours les deux parallèles, la causalité et le non-processus in infinitum. Alors, non-processus in infinitum, condition sine qua non de la finalité. C'est comme une propriété de la causalité, quand la causalité est présente. C'est comme une condition sine qua non. Une condition sine qua non, c'est-à-dire que s'il n'y a pas, si on peut procéder à la finalité, la causalité, elle est fugitive. On ne peut plus la préciser, parce qu'il n'y a plus d'ordre. Dès qu'on repart sur l'infini, le problème de l'infini, c'est de supprimer l'ordre. Dès qu'il y a ordre, il y a détermination, il y a mesure, et donc il y a un principe. Et donc il n'y a pas notre processus in infinitum. Ça, il faut essayer de saisir. Alors, vous voyez ici comment Saint-Thomas l'introduit. C'est très intéressant. Il l'introduit pour essayer de montrer où se situe le libre arbitre. C'est très très intéressant. Il faut à la fin reconnaître que le libre arbitre de l'homme est élu par quelques principes extérieurs. Alors, c'est une vision du théologien. Hein, c'est une vision du théologien, ça ne faut pas dire que c'est une vue de sagesse sur le libre arbitre. Ce n'est pas une vue philosophique sur le libre arbitre, c'est une vue de sagesse. Alors, je reprends. Mais il est maître aussi d'entreprendre cette délibération ou de s'y refuser, et cela suppose encore une délibération préalable. Et comme on ne peut remonter ainsi à l'infini, donc le non-processus in infinitum, le grand levier de commande, vous ne pouvez pas remonter à l'infini. Donc, et comme on ne peut pas remonter ainsi à l'infini, il faut à la fin reconnaître que le libre arbitre de l'homme est mu par quelques principes extérieurs, situés au-dessus de l'esprit humain, c'est-à-dire par Dieu. La transcendance. Très très curieux. C'est très intéressant. Aristote lui-même le démontre. Mais, pas tout à fait de la même façon. Mais l'autorité d'Aristote est là. L'autorité d'Aristote, ici, non processus in infinitum.
Mais Aristote démontre pourquoi tu fais
ça. Oui, de façon générale, tout à fait générale, pas par rapport au libre arbitre. C'est là où Saint-Thomas se sert avec beaucoup de liberté d'Aristote. Parce que si vous cherchez là, vous direz, oui, c'est lui dont Aristote, cherchez bien. Alors oui, évidemment, on en voit. Morale, thème, Bruxelles, Bruxelles, tout ce que vous voulez. Mais au fond, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que Saint-Thomas a raison. Il a raison pourquoi? Parce que le non-processus à l'infini existe dès qu'il y a causalité. Or, en morale, vous trouvez la causalité, donc il y a le non-processus à l'infini. Mais c'est pas le même. Vous voyez? Dans le livre Métaphysique, dit ça. On va avoir lu ça. C'est le livre critique de la métaphysique. La métaphysique. Il y a Grand A, il y a Petit A. Alors, petit a, c'est le second livre de la métaphysique, et dans le second livre de la métaphysique, Aristote montre que dans tous les ordres de causalité, notre processus signifie tout. Dans l'ordre de la causalité finale, dans l'ordre de la causalité efficiente, dans l'ordre de la causalité formelle, dans l'ordre de la causalité matérielle. Donc, tous les ordres, les quatre ordres. Les quatre ordres. Enfin, la synthèse des quatre. Alors, il y a quatre ordres, et ces quatre ordres sont selon les lignes des diverses causalités. Et selon les lignes des diverses causalités, notre processus signifie tout. On ne peut pas monter à l'infini. Aristote lui-même le démontre. Ainsi donc, l'esprit de l'homme, même dans son intégrité primitive, n'a pas tellement la maîtrise de ses actes qu'il n'ait cependant besoin d'être lu par Dieu. Sa liberté n'est pas absolue, c'est ça que ça veut dire. Sa liberté est créée. Si sa liberté est il dépend donc nécessairement d'une cause extrinsèque, par rapport à sa liberté, par rapport à sa vie. À bien plus forte raison en est-il ainsi du libre arbitre de l'homme après le péché, alors qu'il est détourné du bien par la corruption de sa nature. Donc vous voyez, ce premier article, cette première réponse, c'est pour montrer qu'on a nécessairement la dépendance du premier moteur. Parce que vous ne pouvez pas monter à la fin. Le non-processus signifie tout, qui est quelque chose de très très intéressant. S'il y a parmi vous qui s'intéresse à ça, c'est le problème de la causalité et le problème du non-processus signifie tout. Et les deux se tiennent. Alors au point de vue d'histoire de la pensée, je vous dis que c'est très très intéressant de voir que le non-processus annonce, et même quand la causalité est supprimée, celui-ci demeure.
Oui. Le début de la considération, elle ne pourrait pas être valable en philosophie. Sur le fait qu'une délibération
de la réponse. Ah oui, mais c'est la manière dont un homme interprète le futur. C'est ça que je veux dire.
Et que conclurait le philosophe dans ce cas-là, du fait qu'il y a une délibération toujours première?
Le philosophe ne pourrait pas la conclure tout de suite. Le philosophe fait l'analyse du libre arbitre. Il fait l'analyse de la liberté de l'homme. Bon, il s'aperçoit qu'en effet, c'est ce que je donnais dans le cours d'éthique, ce que nous avons essayé de voir. À quel moment apparaît la liberté? C'est ça que le philosophe s'intéresse. Il remonte tout de suite à la causalité efficiente. Vous voyez, ça, c'est très intéressant ce que je dis à ce moment-là, parce qu'alors on pourrait dire, preuve de l'existence, c'est ce que certains ont dit, preuve de l'existence de Dieu à partir de la liberté. Preuve de l'existence de Dieu à partir de la liberté. Si je prends ça, je transpose en liberté, je dis, saint Thomas nous donne une preuve de l'existence de Dieu à partir de la liberté. Donc, saint Thomas, là, rejoint Kant.
Hein? Et Descartes aussi.
Oui, Descartes aussi, oui, Descartes fait ça, par la liberté. C'est sûr, il fait par la liberté. Et c'est le passage de Suarez. Alors, est-ce que c'est vrai? Vous voyez, c'est ça. C'est là où vous voyez. Et sûrement qu'il faudrait regarder la manière dont Suarez commande ça. Pour voir si Suarez met déjà le point de vue de la liberté comme un absolu, et dire que, comme un absolu, comme quelque chose qui nous permet d'être un métaxu pour les preuves de l'existence de Dieu. Ça, c'est sûr, si je prends ça et que je lève ici cette pensée de Saint-Thomas, je dirais, l'existence de la liberté exige de poser un premier moteur. Oui. Et je ne dirais pas ça, hein, du philosophique. L'existence de la liberté n'exige pas de poser immédiatement un premier moteur. Mais en théologie, puisque je suis dans une vision de sagesse, je peux le dire. La différence du raisonnement, vous voyez, du philosophe et du théologien. Ça, c'est important à noter. Hein, c'est important à noter. C'est, quand on lit la somme de théologie de saint Thomas, c'est une des choses qui a été faite, du reste. Mais c'est très intéressant de voir chaque fois où saint Thomas donne comme des ébauches, des preuves de l'existence de Dieu. Et vous voyez, saint Thomas, hein, ne le donne pas dans les cinq preuves. C'est très curieux. Donc il a fait un oubli de vrai. Ça, c'est une preuve magnifique, ça, aujourd'hui, ce serait extraordinaire. Vous êtes libre, et bien Dieu existe. Vous posez un acte de liberté, vous choisissez un petit chapeau plutôt qu'un autre, c'est l'existence de Dieu. Parce que le choix de Dieu, c'est ça, enfin, c'est le choix libre. Choisir un gâteau plutôt qu'un autre gâteau, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Eh bien, elle a l'existence de Dieu. Parce que ce choix, et qui existe, montre que Dieu existe. C'est très vrai, mais ce n'est pas immédiat. C'est très vrai, c'est très très vrai de dire puisque j'existe, puisque je pense, Dieu existe, c'est évident, je peux le dire tout de suite. Mais faisons attention, puisque je pense, Dieu existe, puisque je choisis ce gâteau, Dieu existe. Vous voyez alors l'aspect religieux merveilleux, pas je choisis ce petit gâteau, vous voyez, je fais là un geste pour montrer que je témoigne de l'existence de Dieu dans le choix du gâteau. Non, c'est... Mais c'est pas direct. Pourquoi? Parce qu'on reste dans l'intentionnalité. Je reste dans l'intentionnalité au niveau des libertés. Alors cette intentionnalité, elle est très, très vraie, mais elle ne me permet pas de poser directement l'existence de l'être premier. Tandis que dans une vision de sagesse, je peux le dire. Vous voyez un peu, on précisera ça après, à propos des preuves de l'existence de Dieu. Ça prouve des preuves de l'existence de Dieu qu'on verra comment cette argumentation que donne ici saint Thomas est une argumentation dans l'ordre de la sagesse, mais pas dans l'ordre philosophique. Alors, seconde objection. Un être peut plus facilement accomplir ce qui est conforme à sa nature que ce qui est étranger à sa nature. Magis potes id quades sibi secundum natura, quam id quades sibi preter natura. On est tous d'accord là-dessus. Or, le péché est contre nature, selon saint Jean Damascène, tandis que l'œuvre vertueuse est conforme à notre nature, comme nous l'avons vu. Si cependant l'homme peut pécher de lui-même, il peut à plus forte raison, semble-t-il, de lui-même vouloir et faire le bien. Ah, très joli comme Sophie. Normalement, on est plus proche de ce qui est code naturel à notre nature. Comment se fait-il qu'on pêche plus facilement que d'exercer la vertu? On devrait faire juste à l'inverse. Parce que le péché est préternatural, il est même contre la nature, le péché. Or, je pêche plus facilement que je ne fais une œuvre vertueuse. Il m'est plus facile de désobéir que d'obéir. Hein, surtout dans certains états dans lesquels je me trouve. N'est-ce pas? Alors, il est plus facile de désobéir que d'obéir. S'il est plus facile de désobéir que d'obéir, alors ce qui est contre l'injure est plus dans une pente plus facile. Vous voyez? À cause du status naturel. Alors, réponse tout simplement. Péché, ce n'est pas réaliser le bien qu'il convient que tel être accomplisse suivant sa nature. Or, de même qu'une créature n'a l'existence parce qu'elle la tient d'un autre et que d'elle-même elle n'est rien, de même quand il s'agit de la réalisation du bien qui convient à sa nature, a-t-elle besoin d'être encore soutenue par un autre? Laissée à elle-même, elle aurait tout autant de raisons de déchoir du bien qu'elle en aurait tombé dans le néant si Dieu la conservait. Tout de suite, on voit le métaphysique. Ça, c'est aussi très intéressant à voir. Potesta autem perceipsum deficere debono, sibit et perceipsum potes deficere in non esse. Et ça, c'est l'angoisse métaphysique. Donc, vous pouvez tous deficere in non esse. Vous avez en vous la capacité d'être anéanti. Alors, l'angoisse métaphysique. Donc, quand vous mettez juste là, dire c'est vrai. Si Dieu ne me soutenait pas actuellement, je tomberais dans le néant. Alors, ce qui est vrai du côté de l'essai, on le voit du côté du bien. Il faut donc que Dieu me soutienne actuellement dans le bien pour que je puisse faire le bien. Autrement, je tomberais dans le néant. Parce qu'il y a une propension vers le néant. Alors, voyez, la réponse de saint Thomas, c'est très curieux quand on dit ça. La réponse de saint Thomas, c'est de montrer que la créature comme créature, a une propension vers le non-être. Et donc, a une propension vers le non-bien. Alors, il ne faut pas dire, le péché est code naturel à la créature. Hein? Vous voyez comment on pourrait. Hein? On pourrait dire ça. Le péché est code naturel à la créature. Ah non, faisons attention. C'est que l'ordre vers le non-être n'est pas un ordre positif. C'est là la différence entre les existentialistes et saint Thomas. Parce que les existentialistes diront que l'être humain se définit par la mort. L'homme est orienté vers la mort. Il n'est pas orienté. L'homme est orienté vers le non-être. Il n'est pas orienté positivement vers le non-être. Il a une capacité, une possibilité de non-être. Bien, c'est la même chose du côté du mal. Il a une capacité de mal agir, mais il n'a pas une propension. Donc, il faut bien voir la différence. C'est pour ça que c'est bien comme réponse. Vous voyez, c'est très subtil. C'est très subtil comme réponse, parce que ça pourrait très bien s'orienter vers quelque chose d'autre. Alors, troisièmement, le vrai et le bien de l'intellect, donc le vrai et le bien de l'intellect, selon le mot d'Aristote. Bonum intellectus est verum. Donc, le bien d'intelligence, c'est le vrai. Or, l'intellect peut arriver au vrai par lui-même. Tout être ayant la capacité d'accomplir par lui-même son opération naturelle. Donc l'homme peut par lui-même faire et vouloir le bien. Objection qui assimile le point de vue de l'intelligence et de la volonté. Alors simplement répond, enfin, le vrai lui-même n'est pas à la portée de l'homme qu'avec l'aide de Dieu. Nous l'avons montré à l'article précédent. Et cependant, le péché a davantage corrompu la nature humaine dans son appétit du bien que dans sa connaissance de la vérité. Alors ça, c'est très très important. Et tamen magices natura humana corrupta perpetuum quantum ad appetitum boni, quam quantum ad conditionem veri. On n'est plus corrompu du côté de l'appétit naturel parce que ça regarde le sujet. Que du côté de l'intelligence. L'intelligence garde son intégrité, tandis que la volonté ne garde pas son intégrité. Le péché alourdit davantage l'appétit que le point de vue de l'intelligence. Mais l'intelligence ayant besoin de l'appétit pour progresser, l'intelligence est corrompue par l'homme. C'est à cause de la paresse. Si on n'est pas si suffisamment intelligent, c'est à cause de la paresse. Si on était moins paresseux, on serait plus intelligent. Et alors, le péché alourdit cet appétit. Et c'est pour ça qu'à cause de ça, on a plus de difficulté d'être intelligent. C'est là ? J'ai une propension. J'ai une négation. Alors réfléchissez bien à cela, prenez des comptes revenus là-dessus pour que vous voyez bien, on n'a pas beaucoup avancé, mais ça n'a pas d'importance, ce n'est pas la question d'avancer, c'est la question de comprendre et d'essayer de saisir ce que représente cette chose difficile à comprendre, hein, et difficile à comprendre, la différence entre le péché qui a abîmé la volonté et le péché qui a abîmé l'intelligence. Et ceci nous aide à mieux comprendre ce que c'est que l'état d'intégrité, ou l'intégrité tout court, j'aime mieux, l'intégrité tout court dans l'état de justice originelle et l'état de corruption après le péché. Ça, c'est très très important à comprendre ça. C'est difficile, c'est pas comme.
À notre vue, on a ça, mais nous avons après le péché.
Quel est traite des états de l'île, c'est encore autre chose, le status. C'est encore autre chose. Non, parce que la création, c'est l'être, c'est pas les statuts. C'est, je crois que le lieu propre, là. Alors, il y a les commentateurs, vous pouvez lire Jean de Saint-Thomas. Si vous voulez lire Jean de Saint-Thomas à propos de la grâce, c'est très très bien. Parce que c'est un des bons endroits de Jean de Saint-Thomas. Ceux qui veulent se familiariser un peu avec Jean de Saint-Thomas, c'est sûrement le traité de la grâce qui est le traité de la grâce et le traité des attributs divins. C'est là où Jean de Saint-Thomas est le meilleur. Oui. Et dans le traité de la grâce, on comprend parce qu'avant, il est en phase de tout ce qui est correct, théologique, et puis on est en pleine théologie. Et là, il faut toujours faire attention qu'on est en théologie, on n'est pas en philosophie. C'est bon comme exercice, les changements de vitesse, vous savez, c'est toujours la chose la plus difficile. Alors, il faut, quand c'est automatique, ça va, mais il faut du temps avant que c'est devenu automatique. N'est-ce pas ? Mais les changements de vitesse, toujours, il faut débrayer, autrement ça ne va pas. Et c'est un changement de vitesse qu'on fait quand on passe de la métaphysique à la philosophie. Et c'est très important de bien saisir certaines confusions qui existeraient en philosophie qui ne sont pas des confusions en théologie. Pour moi, ça, c'est le problème. Parce qu'en théologie, on est au-dessus. on est dans les lumières de foi. Alors certaines distinctions qui sont nécessaires à faire au point de vue philosophique peuvent très bien ne pas être faites au point de vue.